3.
Cet enfant-là est la malédiction de Mondine,
pensa froidement Susanna.
Si je ne peux rien faire d'autre, je pourrais au moins m'emparer de l'arme de Scotter et l'abattre. Ce serait l'affaire de 2 secondes.
Avec sa rapidité, sa troublante rapidité de pistolero, c'était tout à fait possible. Mais elle se retrouva incapable du moindre mouvement. Elle avait anticipé de nombreuses fins à cette scène. Mais certes pas la folie soudaine de Mia, jamais cette fin-là qui l'avait prise totalement au dépourvu. Susanna se dit soudain qu'elle avait sans doute de la chance que la connexion Positronix se soit interrompue à temps. Dans le cas contraire, elle aurait peut-être fini aussi décervelée que Mia.
Et cette connexion pourrait bien se rétablir, ma fille. Tu ne crois pas que tu ferais mieux de passer à l'action tant que tu en as les moyens?
Mais le problème, c'était justement qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle était paralysée par l'émerveillement, totalement esclave. « Arrête !» aboya Seyre à son intention. « Ton travail ne consiste pas à le lécher des pieds à la tête, mais à le nourrir. Si tu veux le garder, tu ferais bien de te dépêcher. Donne-lui le sein. Ou bien dois-je faire appeler une nourrice ?» Elles sont légions, prêtes à donner leur vie pour un tel honneur.
Jamais de la vie!
Hurla Mia en riant à gorge déployée. Mais elle porta l'enfant à son sein et d'une main impatiente écarta le col de la chemise de nuit blanche toute simple qu'on lui avait mise, dénudant son sein droit. Susanna vit clairement pourquoi les hommes étaient envoûtés par elle. Même en cet instant, son sein dessinait un globe d'ivoire parfait, couronné d'une pointe de corail qui semblait plus fait pour une main et un désir d'homme que pour nourrir un bébé. Mia hissa le petit gars jusqu'au téton. Pendant une seconde, il tâtonna avec ce même air comique que quand il la fixait sans comprendre, le visage heurtant le téton, puis s'écartant d'elle comme s'il rebondissait sur la chair. Puis il s'approcha de nouveau. Et sa petite bouche rose se referma sur le petit bouton rose et durci du sein de Mia, et il commença à téter. Mia se mit à caresser la tête de son petit gars, lissant les boucles brunes emmêlées et trempées de sang, riant toujours aux éclats. Mais aux oreilles de Susanna, ce rire ressemblait à un long hurlement octant. Un bruit de ferraille au niveau du sol annonça un robot à l'approche. Il ressemblait ainsi à Andy, le robot messager. Même taille, environ 2 mètres, même allure dégingandée, mêmes yeux bleus électriques, même corps articulé et étincelant. Il portait contre lui une grande boîte en verre remplie de lumière verte.
Qu'est-ce que c'est que ce putain de truc ?
Aboya Seyre, visiblement hors de lui et plein de suspicion.
« Une couveuse !» répondit Scotter. « J'ai pensé qu'il vaudrait mieux prendre trop de précautions que pas assez. »
Lorsqu'il se retourna vers Seyre, son holster à hauteur d'aisselle pivota vers Susanna. L'opportunité était encore plus belle. La meilleure qu'elle ait eue jusqu'ici, et elle le savait. Mais avant qu'elle ait pu s'emparer de l'arme, le petit gars de Mia se transforma. 4. Susanna vit de la lumière rouge glisser sur la pelisse du nourrisson, depuis le sommet de son crâne jusqu'à son talon gauche taché. Pas une rougeur, mais un rougeoiement qui éclairait l'enfant de l'extérieur. Susanna l'aurait juré. Et soudain, alors que le bébé reposait sur le ventre dégonflé de Mia, les lèvres refermées sur son téton, au flash rouge succéda une noirceur qui monta en s'accentuant, transformant le petit être en gnome sombre, comme le négatif de l'enfant rose qui s'était échappé du giron de Mia. Au même moment, son corps se ratatina, ses jambes remontèrent pour venir se fondre dans son ventre, sa tête glissa de côté, entraînant le sein de Mia avec elle. Et s'agglutina sur son cou, qui se mit à gonfler comme le goitre d'un crapaud. Ses yeux bleus virèrent au noir goudron, puis repassèrent au bleu. Susanna essaya de crier, mais n'y parvint pas. des tumeurs apparurent sur les flancs noirs de la chose, puis en éclatant, libérèrent des pattes. La marque rouge du talon était toujours visible, mais s'était muée en une tache hideuse, comme le sceau écarlate sur le ventre d'une tarentule noire. Car c'était bien ce qu'était devenu l'enfant, une araignée. Pourtant, tout de lui n'avait pas disparu. Une excroissance blanche saillait sur le dos de l'animal, et Susanna y vit une tête minuscule et déformée, ornée de deux étincelles bleues en guise d'yeux.
Qu'est-ce que...
s'exclama Mia en se hissant de nouveau sur un coude. Du sang s'était mis à couler de sa poitrine. Le bébé le buvait comme du lait, n'en perdant pas une goutte. Aux côtés de Mia, Saïr se tenait aussi immobile qu'une statue, bouche bée, les yeux saillants de leurs orbites. Quoi qu'il ait attendu de cette naissance, quoi qu'on lui ait raconté, rien ne l'avait visiblement préparé au spectacle qu'il avait sous les yeux. La partie d'état de Susanna prit un plaisir puéril et vicieux à contempler l'expression de cet homme en état de choc. On aurait dit le comique Jack Benny dans un grand jour. Pendant une seconde, seule Mia parut se rendre compte de ce qui s'était produit, car son visage s'allongea avec une expression d'horreur indescriptible, et peut-être aussi de douleur. Puis son sourire revint, ce sourire angélique de Madone. Elle tendit la main et caressa le monstre changeant suspendu à sa mamelle, l'araignée noire avec sa tête humaine microscopique et la tache rouge sur son ventre couvert de poils drus.
« N'est-il pas beau ? » s'écria-t-elle. « Mon fils n'est-il pas magnifique ? Aussi doux que le soleil d'été ?»
Ce fut ses dernières paroles. 5. Son visage ne se figea pas vraiment. Il s'immobilisa. Ses joues, son front et sa gorge, tout échauffés par l'effort de l'accouchement quelques minutes plus tôt, pâlirent brutalement et prirent cette teinte cireuse des pétales d'orchidée. Ses yeux brillants se glacèrent dans leurs orbites. Et soudain, Susanna eut l'impression de regarder non pas une femme allongée sur un lit, mais le dessin d'une femme. Un dessin d'une habileté extraordinaire, mais fait de papier et de fusain, ainsi que de quelques touches pâles d'aquarelle. Susanna se remémora comment elle était retournée à l'hôtel Hyatt Plaza Park après sa première visite au château Discordia, et comment elle était arrivée ici, à Fédic, après sa dernière palabre avec Mia à l'abri du Merlon. Comment le ciel... le château et la pierre même du Merlon s'étaient déchirés. Et alors, comme si la force de sa pensée l'avait provoqué, c'est le visage de Mia qui se déchira, de la racine des cheveux jusqu'au menton. Ses yeux fixes basculèrent de part et d'autre de la déchirure. Ses lèvres s'ouvrirent en deux sourires jumeaux et déments. Et ce n'est pas du sang qui jaillit de la fissure grandissante qui la défigurait, mais une poudre blanche à l'odeur rance. Il revint à Susanna des fragments incertains de T.S. Eliot. Des hommes vides, des pantins, la tête remplie de paille. Et de Lewis Carroll, car tu n'es rien d'autre qu'un jeu de cartes. Avant que le danne-tête de Mia ne relève sa tête innommable des restes de son premier festin. Sa bouche, souillée de sang, s'ouvrit, et il tenta de se hisser en s'aidant de ses pattes arrière qui cherchaient prise sur le ventre flasque de sa mère, et se mit à boxer de ses pattes avant comme à l'intention de Susanna. Il poussa un cri perçant de triomphe. Et s'il avait choisi en cet instant de s'attaquer à l'autre femme qu'il avait nourrie en son sein, Susanna Dean serait sans doute morte aux côtés de Mia. Au lieu de quoi, la créature retourna sur le sein dégonflé qui lui avait donné sa première tétée et le déchira. Susanna l'entendit mâchonner joyeusement de la chair humide. Puis il se mit à fouiller dans le trou qu'il avait creusé et la minuscule tête humaine disparut derrière le nuage de fumée blanche qui s'échappa de la tête de Mia. On entendit un bruit de succion violent et presque mécanique.
Et Susanna se dit « Il est en train d'aspirer toute son humidité, tout ce qui reste de liquide. Et regardez-moi ça, regardez-le enfler comme une sangsue sur le cou d'un cheval. »
Et c'est alors qu'une voix à l'accent anglais ridicule, avec cette intonation snob, aristocratique et désuète, dit
« Pardonnez-moi, messieurs, mais aurez-vous l'usage de cette couveuse pour finir? Car la situation me paraît avoir quelque peu changé, si je puis me permettre. »
C'est ce qui extirpa Susanna de sa paralysie. Elle se redressa vivement sur une main et de l'autre s'empara du pistolet automatique de Scotter. Elle tira d'un coup sec, mais l'arme était fixée par la crosse et ne voulait pas céder. De l'index, elle dénicha le petit loquet de sécurité et le poussa. Elle fit pivoter le pistolet encore dans son holster et le pointa contre la cage thoracique de Scotter.
« Qu'est-ce que... »
commença-t-il, mais du majeur elle pressa la détente tout en tirant de toutes ses forces sur l'étui. Les lanières qui ficelaient Scotter tinrent bon, mais la plus fine, qui retenait le holster, lâcha d'un seul coup et tandis que Scotter basculait sur le côté, baissant les yeux vers le trou noir et fumant qui était apparu dans sa blouse blanche, Susanna prit pleine possession de son arme. Elle abattit Straw et le vampire qui se tenait près de lui, celui au sabre électrique. Pendant une seconde, le vampire resta là, à contempler le dieu araignée qui avait tellement ressemblé à un bébé, puis son aura s'éteignit comme une chandelle qu'on souffle. La chair de la chose disparut instantanément. Il ne resta plus qu'une chemise vide dans un jean vide. Puis les vêtements s'effondrèrent par terre.
« Tu es là !»
se mit à hurler Serre, s'emparant de son propre revolver.
« Tuez-moi cette chienne !»
Susanna roula sur le côté, s'éloignant de l'araignée gigantesque accroupie sur le cadavre de sa mère, en train de se désincarner rapidement, tentant d'arracher son casque au moment où elle basculait du lit. Pendant une seconde, d'une douleur insupportable, elle crut que l'engin ne voudrait pas se détacher, puis elle heurta le sol, enfin libérée. Le casque pendait sur le côté du lit, et Susanna aperçut une couronne de ses cheveux collée sur le rebord métallique. La chose araignée, momentanément délogée de son perchoir quand le corps de sa mère sursauta, poussa un vagissement de colère. Susanna roula sous le lit pour éviter une rafale qui piquait sur elle. Elle entendit un grand « sprunk » lorsqu'une des balles heurta un des ressorts. Elle aperçut les pieds et les mollets poilus de l'infirmière à tête de rat et lui logea une balle dans le genou. L'infirmière lâcha un cri, se retourna et s'éloigna d'une démarche boitillante en poussant des couinements perçants. Serre se pencha en avant, visant le lit double juste au-delà du corps évidé de Mia. Trois trous noirs et fumants apparaissaient déjà dans le tapis au sol. Avant qu'il ait pu en percer un quatrième, l'une des pattes de l'araignée lui caressa la joue, déchirant le masque qu'il portait, dévoilant en dessous sa peau poilue. Serre recula vivement en poussant un cri. L'araignée se rua sur lui avec un vagissement terrible. La chose blanche perchée sur son dos, une nodosité à tête humaine, fixait Serre, comme pour le prévenir qu'il ferait bien de rester à distance de sa proie. Puis la tête se tourna vers la femme, qui ne ressemblait plus du tout à une femme. On aurait plutôt dit les restes d'une momie antédiluvienne, dont ne subsistaient que des lambeaux de tissu et de la poudre d'os.
« Je dois dire que tout cela est quelque peu déconcertant, » fit remarquer le robot portant la couveuse. « Dois-je me retirer? Peut-être devrais-je revenir quand la situation se sera éclaircie. »
Susanna roula dans l'autre sens, sortant de sous le lit. Elle remarqua que deux des ignobles avaient pris leurs jambes à leur cou. Jay, l'homme faucon, ne parvenait visiblement pas à se décider. Rester ou partir? Susanna trancha pour lui, lui collant une balle en pleine tête. Du sang et des plumes marrons et lustrées volèrent. Susanna se releva comme elle put, s'agrippant au bord du lit pour reprendre son équilibre, tendant l'arme de Scotter devant elle. Elle en avait eu 4. L'infirmière à tête de rat et un des autres s'étaient enfuis. Serre avait lâché son arme et tenté de se cacher derrière le robot à la couveuse. Susanna abattit les 2 vampires restants, ainsi que l'ignoble à tête de bulldog. Ce dernier, Haber, n'avait pas oublié Susanna. Il attendait son heure, afin de pouvoir tirer à vue. Elle l'atteignit en premier et le regarda s'écrouler en arrière avec une profonde satisfaction. Pour elle, Haber était le plus dangereux de tous.
« Madame, je me demandais si vous pouviez me renseigner, » commença le robot.
Susanna tira 2 balles dans sa tête d'acier rutilant, éteignant les yeux bleus électriques. C'était là un tour que lui avait enseigné Eddie. Une sirène monstrueuse se déclencha immédiatement. Susanna eut l'impression que, si elle l'écoutait pendant trop longtemps, elle finirait sourde.
« Je suis aveugle, blessé par balle !»
s'époumona le robot, toujours sur ce ton grotesque à la
« Que diriez-vous d'une bonne tasse de thé, très cher ?»« Vision 0, je demande de l'aide, code 7. Au secours, vous dis-je »
Serre se recula de la carcasse de métal, les mains en l'air. À cause des hurlements de la sirène et des jérémiades du robot, Susanna ne put entendre ce que lui criait ce salaud, mais elle l'eut sur ses lèvres.
« Je me rends. Voulez-vous bien me croire ?»
L'idée la fit sourire, sans même qu'elle en eût conscience, sans une pointe d'humour ou un soupçon de pitié. Et ce sourire n'avait qu'une seule signification. Elle voulait le voir lui lécher les moignons, comme lui avait forcé Mia à lui lécher les bottes. Mais elle n'avait pas de temps à perdre. Au rictus de Susanna, il comprit qu'il était condamné et fit mine de s'enfuir. Susanna lui tira 2 balles dans la tête, une pour Mia, l'autre pour le père Callahan. Le crâne de Serre explosa dans une orgie de sang et de cervelle. Il s'agrippa au mur, en arracha une étagère chargée d'ustensiles et de matériel, puis tomba raide mort. Susanna visait à présent le dieu araignée. La minuscule tête humaine posée sur son dos noir et hirsute se tourna vers elle. Les yeux bleus, dérangeants, si semblables à ceux de Roland, se plantèrent dans ceux de la jeune femme.
« Non, tu ne peux pas. » « Tu ne dois pas, car je suis le seul héritier du roi. »«
Ah non, je ne peux pas ?»
lui lança-t-elle en levant son arme.
« Oh, trésor, si tu savais à quel point tu te... »
« Plante !» Mais avant qu'elle ait pu appuyer sur la détente, un coup de feu éclata derrière elle. Une balle lui érafla le cou, creusant un sillon brûlant. Susanna réagit instantanément, pivotant et se jetant à terre. L'un des ignobles qui s'était enfui avait eu des remords et fait machine arrière. Susanna lui mit 2 balles dans la poitrine, ce qui lui fit mortellement regretter ce dernier excès de zèle. Elle se retourna, cherchant encore la bagarre. Oui, c'était bien ça qu'elle voulait. C'était pour ça qu'elle était faite, et elle serait éternellement reconnaissante envers Roland de lui avoir révélé. Mais tous étaient morts ou déjà loin. L'araignée s'empressa de sauter de son lit sur ses multiples pattes, abandonnant le cadavre desséché de sa mère. Elle tourna brièvement sa tête de bébé immaculée vers Susanna. « Tu ferais bien de me laisser passer, Noiraude, ou bien... » Elle fit feu sur la chose, mais, ce faisant, elle trébucha sur la main tendue du cadavre de l'homme faucon. La balle qui aurait dû tuer cette abomination partie de travers et alla se planter dans une de ses 8 pattes poilues. Un liquide jaune et rougeâtre, tenant plus du pu que du sang, s'écoula de la jointure de la patte. La créature poussa un hurlement de douleur et de surprise mêlée. Malgré le vacarme assourdissant de la sirène et du robot, Susanna perçut très distinctement ce cri à l'intérieur de son crâne.
« Tu me le paieras. Mon père et moi, nous te le ferons payer. Tu nous supplieras à genoux de t'achever. Tu nous imploreras. »«
Tu n'en auras pas l'occasion, trésor.
répliqua Susanna en essayant d'y mettre toute la confiance qu'elle put, ne voulant pas laisser la bête soupçonner ce qu'elle redoutait, que l'automatique de Scotter était à sec. Elle visa avec une détermination inutile et l'araignée s'enfuit précipitamment, se jetant tout d'abord derrière le robot qui braillait, puis s'engouffrant dans une porte sombre. Très bien. Pas génial, pas la solution idéale, mais au moins elle était toujours en vie et c'était déjà du pur bonheur. Et le fait que toute la fine équipe de Seir soit éliminée ou en cavale, pas mal ça aussi. Susanna balança l'arme de Scotter et en choisit une autre, un Walther PPK cette fois-ci. Elle l'extirpa du croc de débardeur de Stroh, puis lui fit les poches, y dénichant une demi-douzaine de chargeurs supplémentaires. Elle songea une seconde à ajouter le sabre électrique du vampire à son arsenal, puis décida de le laisser là où il était. Mieux valait se servir des outils qu'elle maîtrisait. Elle tenta d'entrer en contact avec Jack, mais elle ne s'entendait plus penser. Aussi se tourna-t-elle vers le robot.
« Hé, mon vieux, fais-moi taire cette foutue sirène. Qu'est-ce que tu en dis ?»
Elle ne savait absolument pas si elle obtiendrait le moindre résultat, mais le fait est que ça fonctionna. Le silence qui suivit fut immédiat et délicieux. Il avait la texture sensuelle de la soie moirée. Le silence pourrait lui être utile. Si elle devait essuyer une contre-attaque, au moins les entendrait-elle arriver. La vérité dans toute son horreur. Elle souhaitait qu'il y ait une contre-attaque. Elle voulait qu'il vienne, aussi insensé que ça pût paraître. Elle avait une arme et le sang chaud. C'était tout ce qui comptait.
« Jack, Jack, tu m'entends, gamin ? Si tu m'entends, réponds à ta grande sœurette. »
Rien. Pas même l'écho lointain d'une fusillade. Il était hors d'at... Puis un mot. Un seul. Était-ce seulement un mot ?
Wimbawe.
Plus important encore. Était-ce seulement Jake ? Elle ne pouvait en être certaine, mais elle avait tendance à croire que oui. Et ce mot lui paraissait familier, bizarrement. Susanna se concentra du mieux qu'elle put, essayant d'appeler plus fort cette fois-ci. Et c'est alors qu'il lui vint une idée étrange, trop puissante même pour être qualifiée d'intuition. Jake essayait de faire le moins de bruit possible. Il se cachait. Peut-être s'apprêtait-il à tendre une embuscade. L'idée paraissait grotesque, mais peut-être qu'il avait un coup de sang lui aussi. Elle n'en savait rien. Mais elle se dit que, ou bien il lui avait envoyé exprès ce mot farfelu, Wimbawe, ou bien il lui avait échappé. Quoi qu'il en soit, mieux valait sans doute laisser le gosse vivre un peu sa vie.
« Je dis, je suis aveugle, blessé par balle !» insista le robot.
Il parlait toujours fort, mais l'intonation s'était un peu rapprochée de la normale.
« Je ne vois rien du tout, que diable, et j'ai cette couveuse !»
« Lâche l'affaire, »
fit Susanna.
« Mais, j'ai dit, lâche l'affaire, mon poteau. »«
Je vous demande bien pardon, madame, mais mon nom est Nigel, le majordome, et je ne vois vraiment pas. »
Pendant cette petite conversation, Susanna s'était rapprochée en rampant. Pourquoi négliger les bons vieux moyens de locomotion sous prétexte qu'on s'était vu offrir des petites vacances avec des jambes ? Et puis déchiffrer le nom et le numéro de série imprimés sur le ventre du robot d'acier chromé.
Nigel DNK 45932. Lâche-moi cette putain de boîte en verre, grand merci.
Le robot, affublé du label domestique juste en dessous de son numéro, lâcha l'incubateur et se mit à geindre dès que la boîte explosa à ses pieds métalliques. Susanna se tracta jusqu'à lui et dut vaincre une pointe d'appréhension pour réussir à saisir la main à trois doigts de fer. Elle dut se rappeler que ce n'était pas là Andy de Calab Rinstergis et que Nigel ne pouvait connaître Andy. Peut-être ce robot majordome était-il assez sophistiqué pour aspirer à la vengeance.
C'était en tout cas clairement le cas d'Andy, mais on ne pouvait aspirer à ce qu'on ne concevait même pas. En tout cas, elle l'espérait.
« Nigel, soulève-moi. »
Les servomoteurs se mirent à vrombir lorsqu'il s'inclina.
« Non, mon chou, il faut que tu avances un peu plus. Il y a des éclats de verre là où tu es.
« Pardonnez-moi, madame, mais je suis aveugle, et je crois bien que c'est vous qui m'avez tiré dans les yeux. »«
Oh, ce petit détail !»«
Eh bien, » s'exclama-t-elle en tentant de camoufler sa peur sous une irritation feinte,
« je ne vois pas comment je pourrais te les réparer si tu ne me soulèves pas, n'est-ce pas ? Maintenant, agite-toi un peu si cela te sied. Le temps file. »
Nigel s'avança, écrasant le verre brisé sous ses pieds, et se dirigea vers la voie. Susanna résista au mouvement de recul qui lui vint instinctivement et constata, dès qu'il la saisit, que le robot domestique avait des manières très douces. Il la souleva dans ses bras.
« Maintenant, emmène-moi jusqu'à la porte. »
« Madame, je vous demande pardon, mais il y a un grand nombre de portes en 16, et plus encore sous le château. »
Susanna ne put contenir sa curiosité.
« Combien ?»
Il marqua une courte pause.
« Je dirais qu'il en reste 595 en état de fonctionner. »
Elle remarqua instantanément que 595 pouvait se réduire à 19. Se réduire à vol.
« Ça t'embêterait de me porter jusqu'à celle par laquelle je suis entrée avant le début de la fusillade ?»
demanda la jeune femme en désignant l'extrémité de la pièce.
« Non, madame, cela ne me dérangerait pas du tout. Mais j'ai le regret de vous apprendre que cela ne vous apportera rien de bon, » répondit Nigel de son ton snob. « Cette porte, la New York 7 Fedic, est à sens unique. »
Nouvelle pause. Des relais se mirent à cliqueter dans le dôme chromé de sa tête.
En outre, elle a brûlé après la dernière utilisation. Comme vous le diriez peut-être, elle est allée dans la clairière au bout du sentier.
« Oh, voilà qui est magnifique !» s'écria Susanna en se rendant cependant compte que le rapport de Nigel ne la surprenait pas outre mesure.
Elle se remémora le bourdonnement infernal qu'elle avait entendu juste avant que Serre la pousse violemment de l'autre côté. Elle se rappela s'être dit, même dans son état de détresse, que cette chose était mourante. Et effectivement, elle était morte.
Magnifique, vraiment.
Je vous sens contrariée, madame.
Je veux, mon neveu, que je suis contrarié. C'était déjà assez compliqué que cette foutue porte soit à sens unique, et maintenant elle est définitivement fermée.
Il ne reste que la suppléante, fit Nigel.
La suppléante? De quelle suppléante tu parles?
Je parle de la New York 9 Fedic. Il fut un temps où on comptait plus de 30 portes à sens unique New York Fedic, mais je crois que la 9 est la seule encore valide. Toutes les fonctions de la New York 7 Fedic ont dû être reportées sur la 9.
« Vol, »
se dit-elle. « Pria-t-elle. »
« Il parle de vol, je crois. Oh mon Dieu, j'espère ne pas me tromper. » Tu veux parler de mots de passe, de ce genre de choses, Nigel ?
Eh bien oui, madame.
Emmène-moi à la porte 9.
Comme vous voudrez.
Nigel remonta vivement l'allée centrale, au milieu des centaines de lits vides dont les draps blancs et raides scintillaient sous les plafonniers étincelants. L'imaginaire de Susanna se peupla un instant d'enfants hurlants et terrorisés, fraîchement débarqués de Calabrine Sturgis, et peut-être aussi des autres Calas. Elle vit non pas une seule infirmière à tête de rat, mais des bataillons entiers d'infirmières, impatientes de planter ses casques dans le crâne des enfants kidnappés et d'entamer la procédure qui...
Qui
les anéantissait, qui aspiraient leur intelligence et détraquaient leurs hormones de croissance, les détruisant à tout jamais. Susanna se dit qu'au départ, la douce voix qu'ils entendaient dans leur tête devait leur remonter le moral. Cette voix si accueillante qui les faisait entrer dans le monde merveilleux de North Central Positronics et du groupe Sambra. Ils devaient s'arrêter de pleurer, et leurs yeux se remplirent d'espoir. Ils se disaient peut-être même que ces infirmières en uniforme blanc étaient gentilles, malgré leurs visages poilus et effrayants et leurs crocs jaunes, aussi gentilles que la voix de la dame dans leur tête. Et alors venait le bourdonnement, gagnant rapidement en volume à mesure qu'ils progressaient vers les confins de leur crâne, et la pièce se remplissait de nouveau de hurlements d'effroi.
« Madame, tout va bien ?»«
Oui. »«
Pourquoi cette question, Nigel ?»«
Je crois que vous avez frissonné. »«
Peu importe. Contente-toi de m'emmener jusqu'à la porte vers New York, celle encore en état de marche. »